un œil ailleurs. Un petit tour de la planète. Totalement subjectif.
Notre petit tour de la planète totalement subjectif commence aujourd'hui au Kenya, où le Covid-19 met en lumière le triste état des écoles publiques. Le 4 janvier, les élèves sont retournés à l'école après 9 mois de confinement chez eux. Le hic, c'est qu'avec parfois une centaine d'élèves par classe, la plupart des écoles étaient surpeuplées avant le confinement. Donc en période de Covid, avec les mesures de distanciation sociale, il devient impossible de faire entrer tout le monde dans les classes. D'autant plus qu'en raison de la crise, les écoles privées ont fait faillite. Leurs anciens élèves viennent donc augmenter les effectifs des écoles publiques. Du coup, le ministre de l'Éducation kényan ne s'est pas démonté. Il a incité les enseignants et les parents à faire preuve d'imagination dans une interview à la chaîne de télévision K24, je cite « Laissons nos enseignants et les parents faire preuve d'innovation afin de créer plus d'espace, quitte à ce que ce soit sous les arbres, afin que l'apprentissage se poursuive. » Fin de citation. Et oui, à défaut d'avoir des écoles dignes de ce nom, débrouillez-vous, camarades. Du coup, des centaines d'écoles ont pris le ministre au mot et font la classe dehors. Je vous laisse imaginer la concentration des enfants. Mais au-delà du bruit, toutes les écoles ne disposent pas d'arbres à proximité. Du coup, lors d'une visite officielle avec médias et tout le tout-team, une représentante du gouvernement s'est retrouvée face à des mômes assis sur des pierres et des rondins de bois, transpirant en plein cagnard. Le quotidien kényan The Nation raconte que la petite dame est partie précipitamment sans s'adresser aux médias. Tiens, c'est curieux ça. Et à l'inverse, certains enseignants doivent faire face à la pluie. Bah oui, ça arrive. Donc la classe est interrompue et les enfants se retrouvent entassés sous des auvents pour se protéger. Bref, un conseil gouvernemental décidément très efficace. On file maintenant au Soudan, où les femmes tentent de faire entendre leur cause depuis le 11 janvier. Tout a démarré avec le viol collectif d'une femme par 20 hommes, dans le centre de Khartoum le soir du 31 décembre. Parce que forcément, aucune poursuite n'a été engagée contre les auteurs des faits. Or, depuis le début de l'année, les crimes à l'égard des femmes s'enchaînent. Une fillette de 9 ans a été violée par un membre du renseignement militaire, et une femme enceinte a été tuée par son mari. Du coup, ça commence à bruisser sérieusement sur les réseaux sociaux. À coups de hashtag, les femmes soudanaises prennent la parole pour dénoncer l'omerta qui règne sur les violences sexuelles et les agressions faites aux femmes. D'autant plus que la honte du viol empêche souvent les victimes de porter plainte. Les femmes soudanaises ne demandent en fait rien d'autre que le viol soit reconnu comme un crime. Mais qu'on se rassure, leur cause progresse. Le gouvernement de transition, mis en place après la chute du régime d'Omar al-Bashir en avril 2019, a entrepris des avancées significatives, puisque l'excision est désormais reconnue comme un crime. Et tenez-vous bien, au Soudan, les femmes ont désormais le droit de danser. On quitte l'Afrique pour aller faire un tour en Chine. Je vous parlais ici même, mi-janvier, des heures supplémentaires mortelles pour les employés chinois soumis à un rythme de travail inhumain. Eh bien, la Chine peut s'enorgueillir de faire progresser l'inhumanité au sens propre du terme dans les entreprises. Certaines usines ont en effet mis en place des systèmes d'intelligence artificielle pour mieux surveiller leurs ouvriers. Alors bon, il y a les classiques caméras hein, qui enregistrent le moindre mouvement des salariés et surtout leur retard. Pour avoir passé 3 secondes de trop aux toilettes, un employé a par exemple vu son salaire diminuer de 50 yuan à la fin du mois. Bon, il y a aussi les traditionnels badges qui enregistrent tous les mouvements, temps de travail, repas à la cantine, utilisation de l'ascenseur, achat au supermarché de l'entreprise. Mais bon, ça c'est plutôt classique. Non, il y a mieux avec le bracelet que les 500 cantonniers de la ville de Nanjing doivent enfiler. Et quand ils restent immobiles plus de 20 minutes, le bracelet bip et leur dit « Allez, courage !» Mais le top, c'est le coussin intelligent imposé à tous les salariés d'une entreprise de haute technologie de Hangzhou. Car ce coussin transmet toutes les informations enregistrées, rythme cardiaque, respiration, niveau de fatigue, etc. à la RH. Bref, bienvenue dans 1984. Enfin, on termine notre petit tour de la planète totalement subjectif par Israël. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement israélien s'enorgueillit de vacciner toute sa population à vitesse grand V. C'est d'ailleurs autour des lycéens hein, cette semaine. Ouais, mais l'ONU en fait aimerait juste qu'Israël vaccine aussi les Palestiniens des territoires occupés en Cisjordanie et à Gaza, ainsi que les prisonniers palestiniens. Parce que forcément, c'est plus facile d'aller vite quand on zappe volontairement toute une partie de la population. Selon les 2 rapporteurs de l'ONU qui sont allés regarder de plus près cette belle campagne de vaccination, je cite « Moralement et légalement, cet accès différentiel aux soins de santé nécessaires au milieu de la pire crise sanitaire mondiale du siècle est inacceptable. » Fin de citation. Ils vont même plus loin, je recite « Le refus d'un accès égal aux soins de santé, par exemple sur la base de l'ethnicité ou de la race, est discriminatoire et illégal. » Fin de citation. Enfin bon, si Israël écoutait l'ONU, ça se saurait. Je vous laisse donc méditer, chers auditeurs, sur l'expression « donner un coup d'épée dans l'eau » d'ici notre prochain petit tour de la planète totalement subjectif dans 15 jours.